Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Au fil des pages, David Gaillardon, nous parlerons aujourd'hui du livre de ma vie, d'Anna de Noailles, livre qui a paru il y a quelque temps chez Bartilla, et nous recevons pour en parler François Broche, qui est l'auteur de la préface et de l'appareil critique de ce livre de ma vie, qui tient à la fois de l'autobiographie et des souvenirs. François Broche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, historien, vous avez publié un nombre impressionnant d'ouvrages sur des thèmes aussi divers que la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle, Maurice Barrès ou bien encore Léon Daudet. Et vous aviez publié déjà en 1989, si je ne me trompe, chez Lafon, une biographie consacrée à Anna de Noailles. Vous venez aujourd'hui donc nous parler de cet ouvrage intitulé « Le livre de ma vie ». Anna de Noailles, paru chez Bartilla. Alors, Anna de Noailles, elle est connue du grand public, notamment pour un nom qu'elle porte, celui de son mari, le fils du duc de Noailles, mais elle est surtout, c'est une de ses représentantes, comme il y en a eu beaucoup à Paris à l'époque, de ces familles à la fois descendantes des princes moldovalaques, des hospodars de Roumanie, les Bibesco, les Bessaraba, les Brancovan. Comment s'est fait pour vous la rencontre avec le travail et l'œuvre d'Anna de Noailles?
La rencontre s'est faite par l'intermédiaire de Maurice Barrès. Il ne pouvait effectivement y avoir une grande amitié entre les deux. Ayant fait une grosse biographie de Barrès, j'ai été conduit évidemment à aborder la question des relations entre Barrès et Anna de Noailles, que j'ai par la suite approfondi en faisant également une biographie de Léon Daudet, car les liens entre Léon Daudet et Anna de Noailles étaient également très forts. Mais c'est surtout la relation entre Barrès et Anna de Noailles qui a marqué les esprits du temps, qui a marqué l'histoire littéraire. En dehors de la considération tout à fait, enfin, je ne dirais pas vulgaire, mais disons anecdotique, de savoir s'il y a eu entre eux une véritable liaison ou pas. Peu importe, au regard de l'histoire littéraire, la question est tout à fait subalterne. Il y a eu en tout cas une relation très très forte qui était la relation de, on pourrait presque dire, en tout cas au sens littéraire du mot, de deux génies, en quelque sorte, et qui a été profonde par-delà les drames, les tragédies qu'ils ont traversées.
Nombreuses pour l'un comme pour l'autre, d'ailleurs.
Oui, il y a surtout eu entre eux la tragédie du suicide du neveu de Maurice Barrès, qui était très amoureux d'Anna de Noailles, et avec qui elle a, disons, péché par coquetterie, voulant se rattacher les faveurs de Maurice Barrès, dont elle sentait qu'il s'enfuyait un petit peu. Elle a joué avec ce jeune homme qui était très sensible, très écorché vif, et qui a fini par se suicider. Alors disons que sa culpabilité, la culpabilité d'Anna de Noailles, est à relativiser parce que ce jeune homme était manifestement de tempérament suicidaire. Enfin, tout ça est une anecdote.
Alors, Anna de Noailles, on la connaît pour ses recueils de poèmes, bien sûr pour Le cœur innombrable, l'ouvrage qui lui a apporté le succès dès sa publication en 1901. Ce livre de mémoire, Le livre de ma vie, est un peu curieux parce qu'il s'agit à la fois d'un ouvrage inachevé, d'un récit de souvenirs qui tient pour beaucoup donc d'un travail entrepris sur le plan chronologique, interrompu par la mort, et donc qui nous livre aujourd'hui les premières années de sa vie.
Oui, c'est essentiellement le récit de son enfance, qui est d'ailleurs un récit qu'elle a commencé à partir de 1930 à la demande d'un jeune journaliste appelé à un grand avenir qui s'appelait Pierre Brisson, qui était le fils d'Yvonne Sarcey, la patronne de l'Université des Annales, avec laquelle Anna de Noailles était liée. Et elle a trouvé intéressant, curieux, cette idée de Pierre Brisson de lui demander d'écrire des souvenirs. Et elle s'est mise au travail tout de suite. Et ce qui est curieux dans cette affaire-là, c'est que ce livre n'était pas destiné à paraître sous forme de livre d'emblée et encore moins après sa mort. Car il est divisé en 12 chapitres et chaque chapitre fait l'objet d'une parution dans la Revue de Paris. Donc elle distillait, si vous voulez, en forme de feuilleton dans chaque numéro de la Revue de Paris ses mémoires. Ses mémoires donc d'enfance auxquelles vous avez pu constater que dans le volume, on a adjoint un 13e chapitre qui s'appelait à l'origine Adolescence, où elle passait donc de l'enfance à la maturité par ce chapitre Adolescence. Et malheureusement, sa mort a interrompu, car on aurait été très, évidemment, très curieux de connaître la suite. Même si cette vie était un petit peu c'était la vie, disons que c'était une personnalité people, dirait-on aujourd'hui. Sa vie était sur la place publique à chaque instant, car elle parlait d'elle. Elle en parlait d'abord par écrit, puis elle en parlait surtout dans les salons. Elle en parlait à voix très haute. Elle fascinait tout le monde. Enfin, c'était vraiment un personnage essentiel de la vie mondaine et littéraire de l'époque.
Alors une espèce de livre de mémoire présenté comme autant de feuilletons, feuilletons interrompus, ce qui donne un livre de mémoire inachevé, que vous l'avez dit, mais surtout très singulier. Il y a à la fois une distanciation étonnante, une mise en scène évidente, une espèce d'hypertrophie du moi. Enfin, on a affaire à une personnalité un peu narcissique, très grand genre en même temps, très élégant, et puis avec des côtés presque levantins. On citera tout à l'heure certains des points qui peuvent marqué davantage que d'autres dans ce livre, le voyage à Constantinople. On a affaire à quelqu'un qui a visiblement quand même une certaine image d'elle-même.
Oui, alors c'est un livre de mémoire où elle essaie de ne rien cacher, en tout cas de ne rien cacher d'essentiel, de ne pas se justifier. Ce livre commence par la phrase suivante « Jamais la vérité ne m'a coûté à dire ». Et en effet, on s'en aperçoit, elle parle d'elle très librement. Alors vous dites narcissisme, évidemment, tout est auteur de mémoire et ne peut pas échapper à ce reproche de narcissisme.
Là, on va assez loin quand même. Hein.
Elle parle d'elle.
C'est très touchant, très séduisant.
Oui, mais en même temps, ce n'est pas un livre à sa gloire, car elle met très souvent l'accent sur ses propres faiblesses, sur sa fragilité et sur son rapport à des personnages écrasants de l'histoire de la littérature, comme Napoléon, comme Victor Hugo.
Mais c'est toujours pour se comparer un peu. Enfin, chez d'autres qu'elle, ça pourrait être ridicule. On pense à Jaguer que Proust pour avoir cette espèce de lafetterie.
Il faut dire que le talent, quand même, le talent littéraire emporte tout. Enfin,
on est excuse bien d'accord.
Beaucoup.
Et encore une fois, c'est extrêmement séduisant.
Vous disiez tout à l'heure qu'elle était connue pour ses ouvrages de poésie, poétesse. Et moi, je suis très sensible également à ses ouvrages de prose, moins à ses romans. Elle a publié 3 romans, mais qui sont un petit peu datés. En revanche, ses recueils de souvenirs, de voyages, ses recueils de textes littéraires sont très intéressants et très bien écrits. Il y a une écriture très, très vive, très, presque sèche dans ses recueils de prose, qui contribue, selon moi, à sauver son œuvre et qui mériterait de quelques rééditions.
Mais il y a un ton, d'ailleurs, le ton est donné dès le début, avec une entrée en matière magnifique, je crois que c'est page 31, où elle dit, je cite, « Je suis né à Paris, ces quelques mots m'ont, dès l'enfance, conféré un si solide contentement, ils m'ont à tel point construite, j'ai puisé en eux la notion d'une chance si particulière et qui présiderait à toute ma vie, que je pourrais répéter ce vers de Verlaine, l'amour de la patrie et le premier amour. » Tout est dit, là. L'amour de Paris,
le premier amour et le dernier amour après l'amour de Dieu, ajoutait Verlaine. Il est important qu'elle commence, en effet, ses souvenirs par cette phrase « Je suis né à Paris », qui est une sorte d'affirmation, non seulement de son identité personnelle, mais une espèce de profession de foi. C'est l'amour de la patrie, qui est une référence au vers de Verlaine. C'est vraiment c'est une notion qui est consubstantielle à sa personne et à celle de ses parents. Parce que certes, elle est d'origine balkanique, elle est d'origine moldovalaque, mais un peu lointaine, parce que ses parents avaient déjà rompu les relations avec la Roumanie, dans la turbulence que connaissait la Roumanie de
Disons
ces années-là.
Depuis Napoléon III, ces familles sont très présentes en France. On pense
voilà,
à ses
très
cousines Bibesco,
en France. Et ce qu'il y a de très curieux chez ces immigrés, on dirait qu'il s'agit d'immigrés de haute volée, d'immigrés déjà cultivés, ayant des moyens, donc ce sont nos immigrés d'une espèce particulière. Ce qui est très frappant chez ces gens-là, c'est que dès qu'ils débarquent en France, ils en adoptent immédiatement non seulement la culture, les coutumes, mais également, et surtout, c'est surtout sensible pour ces familles princières, la forme du gouvernement. Ils deviennent instantanément républicains. Ils adorent la France. Ils sont,
c'est une francophilie poussée à l'extrême.
Poussée à l'extrême jusqu'à l'amour de la République. Chez les Brancovans, on célèbre le 14 juillet et on met le drapeau tricolore aux fenêtres. D'un hôtel particulier au demeurant somptueux de l'avenue Hoche.
D'ailleurs, le père est ancien officier de l'armée française, ancien élève de Saint-Cyr.
Voilà, ils ont immédiat. Il n'y a eu absolument aucun problème et on a adopté.
Au-delà de la forme du gouvernement, c'est un amour pour la France qui est crié.
Un amour pour la France qui n'est pas du tout exclusif d'un amour pour les monarchies étrangères, pour les figures princières. Une des idoles de la princesse de Brancovan, Rachel Musurus, la mère d'Anna, était la reine Victoria. Voilà, cette vieille reine Victoria, qu'Anna de Noailles a aperçue un jour à Nice, je crois.
Elle en parle, tout à fait.
Elle en donne un portrait assez saisissant, oui. Et sa mère prétendait qu'elle avait été élevée sur les genoux de la reine Victoria. Mais il y a la reine Victoria, il y a le prince Napoléon, qu'on va voir en famille à Prangin, parce qu'on est dans cette famille, on est sensible, on a un véritable culte pour l'empereur. Et elle en parle très bien. Elle a l'idée, d'ailleurs, au début des années 30, à la fin de sa vie, d'un livre sur Napoléon, qui est une de ses grandes... une des principales figures de son panthéon.
Il y a de très belles pages, d'ailleurs, sur l'empereur.
Il y a de très belles pages
sur l'empereur. On y reviendra peut-être tout à l'heure, si vous voulez bien.
Oui.
Je parlais de Proust tout à l'heure. On est dans ce Paris de la Belle Époque. Je crois qu'elle a servi avec son mari, d'ailleurs, de modèle pour Jean Santeuil, qui est une préfiguration de la recherche. Enfin,
elle était absolument le modèle de la comtesse Gaspard de Réveillon.
C'est ça. Et cette femme qui est très présente dans la presse, dans l'époque, qu'on voit aussi dans les actualités de l'époque, qui est à la fois une mondaine et une salonnarde, extrêmement portraiturée. On a des tableaux de Laszlo, de Forain, enfin, qu'on connaît. On la découvre là, et c'est ce qui malheureusement va clore prématurément ce livre de sa vie, comme une recluse et une grande malade. Et à nouveau, on a l'image de Marcel Proust et ce décalage entre une figure officielle et quelqu'un qui travaille énormément avec le temps qui lui est compté.
Oui, elle a eu ce problème dès son plus jeune âge. Elle a vécu avec cette souffrance, cette douleur qu'on a du mal à identifier sur le plan clinique.
Est-ce que c'est une langueur ? Est-ce que
il s'agissait probablement de migraines qui étaient récurrentes et qui ont dû finir au fil des années par dégénérer en une espèce de tumeur au cerveau, en tout cas une affection au cerveau, dont elle a fini par mourir à un âge relativement jeune, puisqu'elle n'avait que 53 ou 54 ans. Oui.
Et elle mène ensuite, dans les 10-15 dernières années de sa vie, la vie d'une recluse. C'est la recluse de sa chambre, rue Schaeffer.
D'une recluse. Il y a d'ailleurs une description assez impitoyable de Catherine Pozzi, qui va la voir un jour et qui décrit cet appartement couvert de poussière,
tout
dont
tombe
les tentures
en lambeaux,
sont,
oui.
Les tentures tombent en lambeaux, les fauteuils sont houssés. Et on accède à une chambre où Anna Doyle se trouve au fond de son lit. Elle n'est pas coiffée, elle n'est naturellement pas maquillée. Et Catherine Pozzi, il faut dire, dont l'indulgence n'est pas le fort, donne ce tableau assez saisissant, mais qui doit être assez juste. Oui. Cette femme a vécu avec la douleur et la souffrance toute sa vie. D'abord, elle a souffert elle-même. Elle a eu un état de santé déplorable qui lui a inspiré d'assez beaux cris, notamment des poèmes. Il y a beaucoup de poèmes sont marqués par la part de la douleur qui a été dans sa vie. Et elle a vu autour d'elle la maladie et la mort emporter beaucoup d'êtres qu'elle chérissait, à la fois dans sa propre famille et puis autour d'elle dans les jeunes admirateurs qu'elle aimait attirer, dont beaucoup étaient d'ailleurs de Henri Franck, par exemple, un jeune philosophe qui est mort juste avant la guerre de la tuberculose, était très lié à Anna Doyle, qu'il admirait beaucoup, et elle a ressenti douloureusement sa mort. Il y a eu comme ça d'autres morts qui l'a touché de près et qui l'ont atteint très douloureusement. Elle a vécu dans la familiarité avec la mort, dont elle a essayé de faire des poèmes dont certains mériteraient de ne pas être oubliés.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, on est frustré par le fait que la mort prématurée interrompe un travail qui retient un travail d'envergure et qui fait qu'il y a des rencontres qui sont sans doute ratées sur le plan de ses mémoires. C'est qu'on reste sur sa fin, comme vous le disiez, pour Maurice Barrès, pour Marcel Proust, pour l'abbé Mugnier aussi, dont elle est sans doute une des plus proches. Mais alors, en revanche, ce travail de mémoire est contrebalancé par justement une mémoire exceptionnelle. Et alors, elle vous l'a cité dans votre introduction, il y a encore ce sens de l'hyperbole chez elle. Elle écrit « J'ai une mémoire exceptionnelle, je me souviens de tout ce qui m'est arrivé depuis l'âge de 18 mois ». Il faut oser écrire ça quand même.
Oui, c'est un petit peu... Oui, ça paraît un petit peu aujourd'hui.
C'est
très
Anna Noailles, ça. On la retrouve tout à fait dans ce sens de la formule.
Oui, ça nous paraît un petit peu prétentieux, en effet. Mais après tout, c'est vrai qu'elle a une mémoire. Peut-être qu'aussi, elle se souvient de ce qu'on lui a raconté, qu'elle restitue, qu'elle a digéré comme si ça venait d'elle. Mais c'est vrai qu'elle a une mémoire exceptionnelle et qu'elle paraît ne pas trier ce qu'il avantage et ce qu'il a désavantage dans cette mémoire, même si elle se met en scène tout le temps. Mais on aurait aimé, comme vous dites, on reste frustré parce qu'on aurait aimé avoir la suite
la
des
suite,
souvenirs,
bien sûr.
Notamment toutes les fréquentations, la fréquentation de tous les grands hommes qui ont marqué sa vie dans le domaine politique, dans le domaine littéraire. Elle a été très proche, très admirée. Elle a été la première femme commandeur de la Légion d'honneur. Elle avait une popularité exceptionnelle. Mais c'était exactement ce qu'on appelle une égérie, au bon sens du mot, si j'ose dire. Une égérie comme il n'en existe probablement plus, comme peut-être Louise de Villemorin a été la dernière, c'est-à-dire une femme d'un certain milieu qui exerçait une influence à l'époque où les femmes n'avaient pas voix au chapitre. Elle ne votait pas, elle n'était pas...
Je crois qu'on l'avait surnommée la faiseuse d'académiciens, ce qui montre un peu l'influence
voilà,
qu'on lui
oui,
prêtait
sans doute,
dans certains
oui. Elle ne pouvait pas en tout cas être élue à l'Académie française, par exemple. Donc à cette époque où les femmes n'avaient pas un statut d'égalité, y compris ces femmes-là, ces femmes intelligentes, cultivées, supérieures, elles prenaient leur revanche en exerçant une influence sur les hommes qui comptaient. Et Anna de Noailles a été, sur le plan politique notamment, elle était très liée avec des personnalités politiques de premier plan,
oui,
comme Briand, Painlevé. Enfin. Et elle a eu d'ailleurs des engagements politiques dans son époque. On parlait tout à l'heure de l'amour de la République, mais cet amour de la République allait jusqu'à l'amour de valeurs républicaines qui était plutôt classé à gauche.
Oui, la famille est Dreyfusarde.
La famille est Dreyfusarde, le comte Mathieu de Noailles, son mari, est même candidat à un certain moment à la députation, mais malheureusement dans le 16e arrondissement. Il avait mal choisi sa circonscription, donc il n'a pas été élu.
C'est courageux tout de même.
Mais c'était, en effet, ça indiquait...
Alors, on a beaucoup de sympathie pour la description de cette vie de famille, ce quotidien. Bon, c'est l'hôtel Avenue Hoche, on imagine quelque chose d'assez somptueux. Une famille curieuse, un peu très unie, très aimante, un peu la bohème chic, comme on dirait aujourd'hui. Sans doute un rien rastaquouère lorsqu'elle décrit un peu ce mobilier qui donne l'idée d'un grand caravansérail. C'est-à-dire que si on est venu en France, il y a encore une espèce d'atmosphère un peu levantine.
Oui, les parents, en tout cas, ont gardé une grande...
La description des portraits de ces hospodars, quand on se promène aujourd'hui à Bucarest, où on en retrouve de semblables, c'est assez surprenant.
Qui lui font peur, d'ailleurs, qui font peur à la petite fille, et avec qui elle ne se sent aucun lien, alors qu'il s'agit de ses aïeux, de
Direct,
ses ancêtres.
Tout à fait.
Qui ont régné sur la Valachie. Elle descend d'une famille princière.
Brancovan Bessaraba, oui, là sans doute l'une des plus grandes familles avec les Cantacuzènes en Roumanie. Et une famille donc à la fois avec une vie mondaine qui est celle de ce milieu à Paris à l'époque, et en même temps très artiste. La mère est une pianiste réputée, amie de Paderewski qui vient régulièrement dans l'hôtel de l'avenue Hoche.
Il y a effectivement... Anna, au moment où sa mère entrait en agonie, enfin une des dernières paroles qu'elle lui dit, c'est « Je suis née tout entière du bois de ton piano ». La mère était une grande musicienne, une grande interprète, qui aimait beaucoup toute la bonne musique, Mozart, Chopin, Liszt. Et effectivement, il y a des pages sur l'arrivée de Paderewski, du jeune Paderewski, l'archange aux cheveux roux, comme elle dit. Il y a plusieurs pages sur Paderewski.
Oui,
il
est cité très souvent.
Il est cité très souvent. Il y a un superbe portrait physique et puis une description également de la technique pianistique de Paderewski. C'est sûr que la musique a occupé une grande...
On aime visiblement beaucoup la musique avenue Hoche. Oui.
On aime beaucoup la musique et malheureusement Anna elle-même, elle le décrit d'ailleurs d'une façon très, très objective. Sa mère était une grande interprète. Mais pour être un bon interprète des grands musiciens, il faut avoir un minimum d'humilité. Il faut être au service du musicien. Et c'était sans doute trop demandé à la jeune Anna de Brancovan que d'être... elle le dit elle-même, l'interprétation musicale exige l'humilité, le renoncement de soi, la contemplation du héros créateur, et n'attend pas que l'on s'exprime, s'avoue et se console par elle. Mais je ne l'entendais pas ainsi, ajoute-t-elle, douée d'une âme sensible et véhémente, je pensais pouvoir me servir d'un prélude de Bach, d'une sonate de Haydn, d'un largo de Handel, pour élancer les jets d'eau d'un cœur confidentiel, faire tourbillonner les feuilles tombantes d'un rêve éléjac, etc. À un certain moment, elle dit même, la page se termine par sa mère, la princesse Brancovan, qui se précipite pour l'arracher au piano parce qu'elle considère qu'elle ne fera jamais de musique, pour l'arracher au clavier, l'arracher les mains du clavier, parce qu'elle n'aura pas assez d'humilité pour bien jouer du piano. Alors Anna aimera la musique, mais... pas comme sa mère, pas comme une interprète.
Puis je crois qu'elle aime tout avec passion. Il n'y a pas de demi-mesure chez Anna de Noailles.
Ah non, il n'y a pas de demi-mesure, c'est ce qui fait son charme. C'est ce qui fait qu'elle fascinait. Elle était en somme autant fascinante qu'irritante, parce qu'on ne la comprenait pas toujours, mais on était emporté par ce déluge de mots. Il y a une très jolie comparaison qui est celle de Marie Curie. Au moment où Anna de Noailles meurt, Marie Curie a cette formule, c'est un peu de radium qui disparaît. Et je crois que la comparaison, qui est un peu, a priori, un peu incompréhensible, s'explique par le fait que le radium, en quelque sorte, c'est une substance qui est lumineuse par elle-même, qui n'a pas besoin de manipulation extérieure, et les radiations traversent, se jaillissent comme une grêle de poussière jaillit, traverse des tissus. Et Anna de Noailles, elle, ce ne sont pas des radiations qu'elle envoie, ce sont des grêles de mots qui partent sans arrêt et qu'il est quasiment impossible d'interrompre. Mais c'est ce qui fait en même temps qu'elle était très recherchée dans les salons. Et je crois que j'ai souvent entendu Jean Rostand, que j'ai eu la chance de connaître, et qui était un des derniers compagnons, amis d'Anna de Noailles, qui a assisté à son agonie, à ses derniers jours, et qui était très sensible au génie. Il prétendait qu'elle avait, cette femme avait du génie, ce qui était quand même assez incompréhensible, parce que si on a l'idée d'une poétesse, d'une aristocrate, d'une mondaine. Et je crois que Jean Rostand expliquait très bien qu'elle était passionnée par les questions scientifiques et que c'était une prodigieuse vulgarisatrice. Elle aimait bien fréquenter les grands savants, le prince de Broglie, elle aimait bien se faire expliquer les grandes théories scientifiques et ensuite les recracher à sa façon. Mais le grand public, qui peut-être n'aurait pas suivi les raisonnements et les développements des grands savants, comprenait tout à fait ce qu'elle disait quand elle en parlait.
Car une intermédiaire de génie.
C'est ça, une espèce de médium.
Voilà. Alors, il y a des choses magnifiques dans ce livre, ce que je qualifierais de mythologie familiale ou de grand passage. Il y a une scène qu'il faut absolument citer, c'est le 14 juillet, vous en parliez tout à l'heure, mais lorsque la vide s'arrête dans la maison et que le personnel et les maîtres communient dans l'esprit du 14 juillet, on va juste lire un passage.
Les domestiques sont autorisés à quitter l'office pour se précipiter aux fenêtres.
Oui. C'est très visuelle. Elle écrit « Le 14 juillet était pour nous un jour remarquable dont nous ne démêlions pas bien le sens. » Elle parle de sa sœur et elles sont enfants à l'époque. « Quelques personnes de notre parenté, deux sœurs de mon père, étaient devenues françaises par leur mariage, quittaient Paris dès la veille, comme si elles abandonnaient la ville à une réjouissance immodeste et indigne de leur estime. Par contre, plusieurs de nos amis, nous le savions, se levaient de fort bonne heure et se dirigeaient vers les plaines de Longchamp avec une éclatante et sensible satisfaction. Le personnel de notre maison lâchait soudain tous les ustensiles de ménage et se précipitait aux fenêtres quand résonnait dans le lointain la Marseillaise, alors que les troupes, après la revue militaire passée à Longchamp, regagnaient les casernes de la capitale. La Marseillaise m'enivra la première fois que je l'entendis, et pour toujours. »
C'est vrai, mais c'est un symbole du profond patriotisme, de l'amour de la France qu'elle n'a cessé d'avoir, et qui était de règle dans ce milieu-là.
Alors, il y a une espèce d'âge d'or qui est cette vie de famille où les parents sont finalement assez présents dans le quotidien des deux enfants, des deux filles, une famille unie, aimante, qui communie dans un idéal aristocratique, mais pas uniquement. On a parlé de l'influence de la musique. Et puis, le premier drame, finalement, dans la vie d'Anna de Noailles, c'est la mort prématurée de ce père.
Oui. Elle avait à peu 10 ans ou 11 ans à peine, et il y a donc
une mort complètement occultée, enfin cachée aux enfants en plus.
Oui, c'était les mœurs du temps. Quand un parent proche disparaissait, on confiait les enfants à d'autres personnes, à une tante, des amis, et ils étaient totalement soustraits à l'agitation qui précédait les obsèques et au déroulement des obsèques elles-mêmes. Ils n'assistaient pas aux obsèques. Donc il y a eu cet aspect de secret, de mystère, de drame qui ne pouvait que troubler l'esprit des jeunes enfants. En revanche, elle participe au retour du prince de Brancovent en Roumanie. Il y a donc un chapitre entier décrivant le retour. Et la princesse de Brancovent, étant d'origine grecque de Constantinople.
C'est le Fanar, là, cette fois. Oui.
Voilà, du Fanar, le grand quartier de Constantinople.
Noblesse qui disait descend des empereurs paléologues, enfin de Byzance.
C'est ça, de Crète, oui. Et donc, la princesse décide de pousser jusqu'à Constantinople. Et il y a ce récit, donc, ce voyage en Orient qui a été, en somme, le seul qu'elle ait fait.
C'est pour moi le plus beau passage de ses mémoires, ce passage à Constantinople, avec la description du palais sur le bord de la colline de Péra, face au Bosphore, avec les yaliks, le personnel, et puis la description physique des cousins, des oncles et des tantes. Oui. C'est étonnant, ce monde-là, c'est encore l'Orient. C'est Loti, effectivement.
C'est Loti. D'ailleurs, elle décrit très bien l'arrachement, finalement, que petite fille, puisqu'elle n'avait guère plus de 11 ans, l'arrachement qu'a été la séparation d'avec ses cousines, entre guillemets, des personnes qu'elle ne reverra plus. Et d'ailleurs, très symboliquement, sur le bateau du retour, elle fait la connaissance de Loti. Et Loti dira, bien des années après, quand elle le rencontrera, qu'il se souviendra de la petite fille de l'Aurora, c'était le nom du bateau.
Le croiseur sur lequel...
Voilà, parce qu'elle ne cessait de pleurer en quittant Constantinople. Et l'image de cette petite fille en larmes, dont le chagrin ne pouvait pas du tout être calmé, effectivement, avait beaucoup frappé Loti. Il y a un portrait de Loti qui est très, très fort. Il y a beaucoup de portraits dans ce livre.
Elle rencontrera effectivement Loti et la rencontre sera finalement décevante. Je crois que c'est une de ses tantes qui est une amie du romancier, de l'académicien, et qui organise une rencontre. Et puis finalement, comme très souvent, les rencontres qui ont été sublimées avant qu'elles n'interviennent, ce sera l'occasion de petites déceptions qui ne remettront pas du tout en cause l'idée qu'elle avait de l'œuvre, d'Asie aidée ou de Désenchantée. Mais la rencontre ne se fera pas.
Beaucoup plus tard, elle se trouve en face de Pierre Loti. Elle est chez sa tante, dans l'appartement de sa tante rue de Courcelles, dans un salon dont l'ameublement chinois tout entier en bois d'ébène, en ce temps-là fort prisé, figurait des chimères irritées. Enfin, Loti donc entre, et le portrait est le suivant, un nez épais et arrondi d'amples papillons des nuits, une courte barbe foncée taillée en pointe ne parvenait pas à être rachetée par la saisissante beauté du regard. Alors cette description du regard est importante. Le regard était pourtant obsédant, yeux vastes et immobiles appliqués à bien voir, qui semblaient aspirer tout spectacle, mêler avec idolâtrie une vision nouvelle à l'accumulation des régions, des cieux, des océans, des astres, engloutis dans la prunelle de ce voyageur perpétuel et non rassasié.
Oui, elle a saisi tout de même le magnétisme du romancier.
Voilà, elle n'est pas sensible à la personnalité de Loti, elle ne ressent aucune émotion, mais elle a quand même cette description objective qui est celle d'un portraitiste. Il y a beaucoup de portraits dans ce livre. Le portrait de la reine Victoria tout à l'heure, Loti, ses parents, ses proches...
Paderewski dont on parlait...
Paderewski, le portrait est absolument magnifique.
Des portraits, puis alors encore une fois, le sens de la formule. À propos de Napoléon Ier, elle écrit « Walewski, trésor négligeable de l'histoire ». C'est comme bien résumé. À propos de la mort du père, « Les enfants sont de trop dans le malheur ». C'est beau, ça.
Oui, ça aussi. C'est très beau.
Le séjour ottoman, elle écrit, je crois, « Notre arrivée à Constantinople fut, par son respect, ses extases, paradoxalement celle des chrétiens débarquant en Terre Sainte ». Pas mal.
Oui, c'est beau. C'est là où on voit que l'écriture est finalement... Ce talent est assez moderne. Ce talent n'est pas démodé. On peut juger que la poétesse est...
Elle a une intuition dans l'écriture parce que ça ne sent pas le travailler. Enfin, il y a un sens de la formule, quelqu'un qui sait résumer.
Qui sait voir. Et c'est très sensible dans les récits de voyage. Elle a beaucoup collaboré à des revues, à des journaux. Et elle s'est montrée une journaliste et une chroniqueuse ennemie de toute littérature, de toute fadeur, de toute... Elle allait d'emblée à l'essentiel. Elle voyait ce qui était important de voir. Ça, c'est très frappant dans ces ouvrages, dans ces recueils de textes qui ne sont pas réédités, dont certains ont été tirés d'ailleurs à très peu d'exemplaires.
Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des archives ou un fonds à la Noailles? Est-ce qu'on a l'embryon de ce qu'aurait dû être, non pas le volume suivant, mais les feuilletons suivants, puisqu'il s'agissait de choses destinées à la presse?
Le feuilleton suivant, non, on ne l'aura jamais. On sait simplement,
Il n'y avait pas un canevas que vous auriez retrouvé?
Il n'y avait absolument pas de canevas. Le récit s'est interrompu, puisque, comme je vous le disais, elle le publiait au fur et à mesure dans la Revue de Paris. Donc, elle n'a laissé aucune note. Et simplement, on connaît... j'ai publié une biographie nourrie de beaucoup de témoignages et d'archives sur elle. On connaît la suite de l'histoire, mais on ne connaît pas la façon dont elle l'aurait racontée, malheureusement.
Oui, parce que le livre de ma vie s'achève sur la vie de la famille Brankovan après la mort du père. Il y a des descriptions de ce salon musical. On a l'impression que la musique vient pallier un peu la disparition de ce père. Encore une fois, Paderewski devient un familier. Le prince Edmond de Polignac, grand amateur de musique, qui épousera Vinorita Singer.
Encore un portrait, oui.
Voilà un autre beau portrait. Le salon Polignac-Singer sera un des grands salons musicaux de l'entre-deux-guerres ensuite. L'art tient une place prépondérante très tôt dans la vie de cette famille.
Le prince de Polignac était d'ailleurs une figure du tout Paris, mais il était lui-même compositeur, auteur d'opéra bouffe. Il était très lié à Georges Bizet. Il avait épousé une milliardaire franco-américaine.
Vinorita Singer, oui.
Voilà.
Il serait une grande mécène de musiciens comme Poulenc, notamment.
Il y a également un portrait du prince de Polignac. Elle écrit ceci à son propos. « Je ne peux apparenter à nulle figure cet aristocrate sans autre compagnie intime que celle de divinités ineffables et qu'une constante et personnelle prière sur l'acropole rendait à la démos antique. Nourri de Diderot et de Voltaire aussi bien que du génie grec et latin, c'est avec la précision d'un élan d'oiseau que sa sensibilité venait se poser et frémir dans la neuve forêt où Mallarmé fait croître au moyen des irisations verbales une reine dans les ténèbres, etc. »
Et c'est ce qui est en filigrane dans tous ces mémoires et qui sont d'ailleurs tout à fait magnifiques, c'est qu'il y a à la fois cet amour de la France, de sa culture, de son patrimoine, de la patrie elle-même, et quelque chose de cosmopolite, une ouverture sur l'autre, sur le monde, qui va de pair en fait.
Je dirais plus que ça encore, une ouverture sur la nature. Il y a chez elle une religiosité panthéiste qui lui fait aimer toute créature vivante. Il y a beaucoup de poésie sur les animaux.
Et ça donne lieu à de très belles descriptions. On n'a pas parlé d'Amphion, d'ailleurs, la résidence.
Amphion, qui était son autre
voilà,
racine.
Sur le Léman, voilà. Il y a effectivement de très, très belles descriptions, non seulement de lieux de campagne, mais de maisons. On va, je crois, chez Madame de Staël. Donc, il y a des maisons d'écrivains qui sont décrites. Il y a des lieux comme ça. Et elle essaie de, en quelques phrases, elle parvient à brosser comme un peintre brosse un portrait.
Mais le Léman est très important parce que sur le Léman, il n'y a pas seulement les maisons et les gens, il y a la nature qui est présente, il y a une description du lac qui est magnifique.
Elle parle de Rousseau, elle communique la nature.
Rousseau est une de ses grandes adorations littéraires, donc il y a un pèlerinage au Charmette en compagnie de Barrès d'ailleurs, qui est très, très intéressant. Elle aime toute chose créée, donc c'est, par définition, c'est une ouverture, une curiosité incessante vers tout ce qui lui est extérieur. Mais avec toujours cette volonté de se mettre en scène, c'est elle par rapport au monde. Mais ce qui relativise un peu, il ne s'agit pas d'égoïsme, elle n'est pas repliée sur elle-même, mais simplement elle se met en scène dans ce monde. Et ce qui la désolerait, c'est ce qu'elle pressent d'ailleurs après la Grande Guerre, qui lui inspire de très belles pages également, elle pressent que son heure va passer, que le bouleversement a été tel que son heure va passer. Et donc ça l'a... Ce n'est pas seulement l'idée de la mort qui la bouleverse, c'est le fait qu'on ne va plus s'apercevoir qu'elle est importante. Elle a ce mot, un de ses derniers mots avant de mourir, c'est « qui me téléphonera quand je serai morte ?» C'est à la fois dérisoire et pathétique en même temps. Elle ne sera plus là pour voir ce qui va se passer et elle se rend bien compte qu'on ne va plus parler d'elle. D'où sa volonté de laisser ce témoignage avec le livre de ma vie.
Vous avez le sentiment qu'il y a eu un purgatoire pour Anna de Noailles, comme c'est le cas, on prétend parfois qu'il faut 50 ans avant qu'on ne retrouve, qu'on ne renoue avec l'œuvre d'un artiste une fois qu'il est mort. Vous pensez qu'aujourd'hui, Anna
de Noailles... Elle pouvait difficilement échapper à ce purgatoire, bien sûr.
Alors les 50 ans sont passés, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Écoutez, il y a eu déjà quelques livres qui ont paru, quelques biographies. Il y a la correspondance, le grand document qui a été la correspondance entre Barrès et elle, qui était interdite jusqu'en 2000. Ce grand document a enfin paru grâce à Claude Mignot-Liastri, qui a fait un travail absolument extraordinaire sur ce livre. Donc il y a des rééditions, et pas seulement le livre de ma vie, mais je crois qu'on a réédité un des romans récemment. On va rééditer, j'ai appris qu'on allait rééditer d'autres textes d'elle. Il y a un petit mouvement. Je ne dis pas que ce petit mouvement va intéresser là.
Un frémissement.
Un frémissement, voilà exactement. Un frémissement qui intéresse un public lettré. Et tant que ce public lettré existera, eh bien, rien ne sera perdu.
François Broche, je vous remercie. Je rappelle que le livre de ma vie d'Anna de Noailles a paru il y a quelque temps chez Bartilla. Merci beaucoup.
Merci.